Chapitre 3e. Miss Agnès Lockwood à Madame Ferraris. J'ai promis, ma bonne Émilie, de vous donner quelques détails sur le mariage de M. Arthur Barville et de Miss Haldane. Il a eu lieu il y a 10 jours. Mais j'ai eu tant à faire en l'absence du maître et de la maîtresse de la maison que je n'ai pu vous écrire qu'aujourd'hui. Les invitations n'ont été faites qu'aux membres de la famille du mari et de la femme en raison de la mauvaise santé de la tante de Miss Haldane. Du côté de la famille Mountbury, il y avait, outre Lord et Lady Mountbury, Sir Theodore et Lady Barville, Madame Narbury, la deuxième sœur de Milord, comme vous savez, Francis et Henry Westwick. Les trois enfants et moi nous assistâmes à la cérémonie en qualité de demoiselles d'honneur. Deux autres jeunes filles fort gentilles, cousines de la mariée, se joignirent à nous. Nos robes étaient blanches, avec des garnitures vertes, en honneur de l'Irlande. Le marié nous fit à toutes cadeau d'un joli bracelet d'or. Si vous ajoutez aux personnes que je viens de nommer les membres de la famille de Madame Carberry et les vieux domestiques des deux maisons, à qui l'on avait permis de boire à la santé des nouveaux mariés, à l'autre bout de la salle à manger, vous aurez la liste complète des convives du déjeuner de noces. Le temps était magnifique et l'office en musique fut superbe. Quant à la mariée, on ne saurait dire combien elle était belle et combien elle fut charmante et candide pendant toute la cérémonie. Nous fûmes très gais au déjeuner, et les discours ont été fort bien tournés. C'est M. Henry Westwick qui parla le dernier et le mieux de tous. Il termina en faisant une proposition qui va avant peu changer complètement notre genre de vie. Si j'ai bonne mémoire, voici comment il s'exprima. Nous sommes tous d'accord, n'est-ce pas, pour regretter l'heure de la séparation qui est proche maintenant, et nous serions tous fort heureux de nous revoir. Pourquoi ne prendrions-nous pas un rendez-vous ? Voici l'automne, nous allons aller en vacances. Que diriez-vous, si vous n'avez pas déjà d'autres engagements, bien entendu, de nous retrouver avec les jeunes mariés avant la fin de leur voyage de noces, et de recommencer le charmant déjeuner que nous venons de faire par un festin en l'honneur de la lune de miel? Nos jeunes gens passent par l'Allemagne et le Tyrol avant de se rendre en Italie. Je propose que nous leur laissions un mois à rester seuls et que nous nous arrangions ensuite pour les retrouver dans le nord de l'Italie, à Venise, par exemple. On applaudit à cette idée, et les applaudissements se changèrent en éclats de rire grâce à qui ? À ma chère vieille nourrice. Au moment où M. Westwick prononça le nom de Venise, elle se leva soudain à la table des domestiques, à l'autre bout de la pièce, et cria de toutes ses forces « Descendez à notre hôtel, mesdames et messieurs, nous touchons déjà 6% de notre argent. » Et si vous voulez louer toutes les chambres libres et demander tout ce qu'il y a de meilleur, ce sera 10% dans nos poches, en moins de temps que rien. Demandez plutôt à M. Henry. » Ainsi mis en cause, M. Westwick ne put faire autrement que de nous avouer qu'il était actionnaire d'une compagnie qui venait de se former pour exploiter un hôtel à Venise et qu'il y avait aussi intéressé la nourrice pour une petite somme, je pense. Aussitôt, chacun voulut porter le même toast et l'on but, au succès de l'hôtel de la nourrice et à une hausse rapide du dividende. Peu à peu, on en revint à la question plus importante du rendez-vous projeté à Venise. Les difficultés commencèrent alors. Bien entendu, plusieurs personnes avaient déjà accepté des invitations pour l'automne. De la famille de Madame Carberry, deux parents seuls purent s'engager à venir. De notre côté, nous étions plus libres. M. Henry Westwick devait aller à Venise avant nous tous pour assister à l'inauguration du nouvel hôtel. Madame Narbury et M. Francis Westwick s'offrirent à l'accompagner. Et après quelques hésitations, Lord et Lady Mountbury s'arrêtèrent à un autre arrangement. Lord Mountbury ne pouvait pas facilement prendre le temps d'aller jusqu'à Venise, mais lui et sa femme consentirent à suivre Madame Narbury et M. Francis jusqu'à Paris. Il y a 5 jours déjà qu'ils sont partis avec leurs compagnons de voyage, laissant ici à ma garde leurs 3 petits-enfants. Ils ont supplié bien fort, les pauvres chérubins, pour partir avec papa et maman. Mais on a pensé qu'il valait mieux ne pas interrompre les progrès de leurs études et ne pas les exposer, surtout les 2 plus jeunes, aux fatigues du voyage. J'ai reçu ce matin de Cologne une lettre charmante de la mariée. Vous ne pouvez vous figurer comme elle avoue gentiment et sans détour qu'elle est heureuse. Il y a des personnes, comme on dit en Irlande, nées sous une bonne étoile, et je crois qu'Arthur Barville est de celle-là. La prochaine fois que vous m'écrirez, j'espère que vous serez en meilleure santé et plus calme, et que votre emploi continuera à vous plaire. Croyez-moi, votre sincère ami, A. L. Agnès venait de terminer de cacheter sa lettre, quand l'aîné de ses petites élèves entra dans la chambre annonçant que le domestique de Lord Mountbury venait d'arriver de Paris. Craignant quelque malheur, elle sortit à la hâte. Le domestique comprit qu'il l'avait effrayée. « Il n'y a aucune mauvaise nouvelle, mademoiselle, » se hâta-t-il de dire. « Milord et Milady sont fort bien à Paris. Ils désirent seulement que vous et les jeunes demoiselles vous veniez les retrouver. » En même temps, il tendait à Agnès une lettre de Lady Mountbury. « Ma chère Agnès, je suis si heureuse de la vie que je mène ici. Il y a 6 ans, ne l'oublie pas, que je n'ai voyagé, que j'ai fait tous mes efforts pour persuader à Lord Mountbury d'aller à Venise. Et ce qui est bien plus important, j'en suis arrivé à mes fins. Il est maintenant dans sa chambre en train d'écrire les lettres d'excuses aux personnes dont il avait accepté des invitations. Je vous souhaite, ma chère, d'avoir un aussi bon mari, quand le moment viendra. En attendant, la seule chose qui me manque pour être tout à fait heureuse, c'est de vous avoir ici avec mes bébés. Bien qu'ils ne le disent pas aussi franchement, Mountbury est tout aussi malheureux que moi sans eux. Vous n'aurez aucun ennui. Louis vous remettra ces quelques lignes écrites à la hâte et prendra soin de vous pendant le voyage jusqu'à Paris. Embrassez les enfants pour moi 1000 et 1000 fois et ne vous occupez pas de leur éducation pour le moment. Faites vos mal immédiatement, ma chérie, et je ne vous en aimerai que mieux. Votre amie affectionnée, Adela Mountbury. Toute troublée, Agnès replia la lettre et, pour se remettre, se réfugia quelques minutes seule dans sa chambre. Le premier moment de surprise passé, en rentrant en possession d'elle-même, à l'idée d'aller à Venise, elle se souvint des derniers mots prononcés chez elle par la veuve de Mountbury. « Nous nous reverrons, ici, en Angleterre, ou là-bas, à Venise, où mon mari est mort. Et nous nous reverrons pour la dernière fois. » C'était une coïncidence extraordinaire, pour le moins, que la marche des événements dût conduire ainsi, fatalement, Agnès à Venise, surtout après ces paroles. Cette femme aux grands yeux noirs, cette Cassandre, était-elle toujours en Amérique? Ou bien la marche des événements l'avait-elle ramenée elle aussi, fatalement, à Venise? Agnès se leva honteuse d'avoir songé à tout cela, honteuse de s'être posée de pareilles questions. Elle sonna et envoya chercher les petites filles pour leur annoncer qu'on allait rejoindre papa et maman. La joie bruyante des enfants, la préoccupation des préparatifs d'un voyage décidé à la hâte, chassa de son esprit comme elle le méritait toutes ces absurdes pensées qu'elle avait eues. Et Agnès se mit à la besogne, avec cette ardeur fébrile dont les femmes seules sont capables quand elles font quelque chose qui leur plaît. Le même jour, les voyageurs arrivèrent à Dublin à temps pour prendre le bateau d'Angleterre. 2 jours plus tard, ils avaient rejoint Lord et Lady Mountbury à Paris.